peux être bien pensant. Non, c'est toi qui es bien pensant. Non, c'est toi. Parce que hier, je me suis retrouvé dans une soirée avec des amis qui se traitaient mutuellement de bien pensant. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Je me disais, c'est quand même une insulte très, très commode. D'abord, parce qu'elle permet de se déculpabiliser de ses mauvaises pensées. Vous savez, une petite généralité, un petit dérapage, un petit trait d'humour qui perpétue des bons vieux clichés. Si tu le prends mal, bah, c'est que t'es bien pensant. Hein. C'est-à-dire dans la morale, dans la mollesse intellectuelle, mais surtout dans le consensus. T'es comme tout le monde. Et en fait, je me disais, si les bien-pensants, c'est la plupart des gens, bah, si ça se trouve, bah, on est tous le bien-pensant de quelqu'un. Ça veut dire, dès que l'insulte nous concerne, par exemple, de près ou de loin, là, dans ce cas-là, vous avez remarqué, c'est beaucoup moins marrant. On dit, ah bah non, là, non, 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 vraiment, non, non. Et il y a toujours quelqu'un pour nous rétorquer, oh là là, est-ce que tu peux être bien-pensant? C'est fascinant. Et je pense au philosophe Alexandre Jolien, à qui on reproche souvent son côté bisounours. Tellement souvent qu'au fond, le consensus n'est plus là où on le pense. Et je me disais, n'en déplaise à ceux qui sont si fiers d'être mal-pensants, parce qu'ils sont très originaux. Tu comprends? Bah, en fait, ils sont comme tout le monde. Le consensus aujourd'hui, c'est d'être dans l'opposition, dans le cynisme, dans une certaine forme d'individualisme. Donc si ça se trouve, on est rebelle quand on fait tout le contraire, quand on assume ses bons sentiments. Oh là là, est-ce que tu peux être bien pensant ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Si ça se trouve, mon invité d'aujourd'hui peut être accusé de bien-pensance, révélé par le trio des inconnus. Il s'est réinventé au début des années 2000 grâce au film, vous vous souvenez, Ce souvenir des belles choses de Zabou Breitman, dans Presque, co-réalisé avec le philosophe Alexandre Jolien en salle. Bientôt, il nous raconte la virée en corbillard d'un croque-mort et d'un homme en situation de handicap. C'est une très belle histoire d'amitié, sensible, lumineuse. Bonjour Bernard Campan.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mais quelque chose me dit que vous êtes bien pensant, vous.
Je me posais la question en vous écoutant. J'en sais rien. J'essaie de penser droit. Mais je dois être tantôt dans les bien-pensants et tantôt un peu dans les rebelles.
Vous savez, ces accusations systématiques de bien-pensants, ce reproche qui est fait souvent à certains artistes de faire dans le bon sentiment. Qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Qu'est-ce que ça dit de nous?
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, des mots comme bienveillance, parler d'amour, parler même de spiritualité, je pense que ça peut faire un peu bisounours, un peu niais parfois, mais bon, il faut pas en avoir peur, il faut assumer aussi ce qu'on ressent, hein, c'est...
Oui, particulièrement quand on touche à des sujets sensibles comme ceux que vous abordez dans le film, Presque.
J'espère pas, en tout cas, j'espère pas que ça sera perçu comme ça, mais c'est vrai que dans le film, on est c'est pas un film sur le handicap, c'est un film qui montre au contraire qu'il faut aller au-delà des apparences, des étiquetages, des catégories, et à partir de comme dit souvent Alexandre d'ailleurs, à partir du moment où on parle d'une minorité, comme ça peut être le handicap, c'est pour élargir et pour montrer toutes les minorités finalement.
Là, vous savez, je pense tout de suite à des films comme Intouchables, hein, ou encore Le Huitième Jour avec Daniel Auteuil, qui sont aussi des films sur le regard, le regard des autres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Bernard Campan, qui êtes comédien, donc qui jouez avec?
Oui, c'est ça, c'est très très curieux. Comme moi, je suis très sensible au regard de l'autre, j'ai très peur du jugement, je me sens jugé en permanence, j'ai peur du ridicule, et en fait, tout me pousse à justement me libérer de ça, et pourtant je suis comédien, je m'y expose, c'est très paradoxal. Et souvent d'ailleurs, je crois qu'en tant que comédien, on a ce paradoxe de à la fois de timidité, puis de culot, je me sens un peu coincé entre ces deux choses-là parfois.
Ouais. Je me demandais comment on fait pour faire évoluer le regard des autres, ne serait-ce que d'un individu.
Déjà essayer de faire évoluer le sien, s'apercevoir qu'on pose un regard qui est toujours un regard lié à l'automatisme, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les a priori, dans tout ce qui nous façonne, tout ce qui nous a façonné, on pose le premier regard est un regard de jugement.
Je me disais, en vous regardant, ça tient aussi à l'émotion, à la sensibilité, c'est comme ça que vous fonctionnez.
Oui. Alors c'est un peu les deux. Hein. C'est entre l'émotion et puis la raison. J'essaye un peu de naviguer entre les deux.
Dites-moi, le rire. Quelle émotion est-ce que c'est pour vous, Bernard Campan?
C'est extraordinaire, le rire. Hein. C'est vraiment avec la tragédie grecque et la comédie dans la Grèce antique. C'était vraiment les deux pôles formateurs de l'humain. C'était très démocratique d'ailleurs. Hein. Les deux.
C'est démocratique deux parce aspects. Que ça permet de se rapprocher aussi les uns des autres.
Hein. Oui. Le comique, c'est vraiment de pointer toutes les petits aspects ridicules de l'humain, mais pour mieux finalement les les pouvoir les mettre de côté après, finalement.
Et puis on rit ensemble. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, les autres, vous, Bernard Campan?
Les autres.
Les gens avec qui vous travaillez, le collectif, cette idée de collectif.
J'adore le travail. De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse travailler seul. Donc, même l'écrivain, seul sur son bureau, à un moment, il a besoin d'un regard extérieur. Moi, j'ai besoin de l'autre. Enfin, je l'ai toujours vécu comme ça. C'est vrai que les inconnus, c'est avant tout un groupe. Donc, ouais.
Veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est arrivé que les autres croient davantage en vous que vous ne croyez en vous-même?
Tout à fait, oui. Ben oui, moi j'ai, même encore aujourd'hui, enfin, de moins en moins, je pense, mais j'ai toujours eu besoin de ce regard aimant sur moi, encourageant, comme je l'ai cherché dans le regard des parents d'ailleurs, hein, et peut-être que je ne l'ai pas assez eu, c'est pour ça que je le cherche ailleurs aujourd'hui, oui.
Vous savez, je vous pose aussi la question, parce que ce film, presque, Bernard Campan, c'est aussi l'histoire d'une amitié, celle en l'occurrence qui vous lie, Alexandre Jolien, dans la vie. Qu'avez-vous eu le sentiment d'apprendre à son contact?
Ben, peut-être, c'est con à dire, mais pas grand-chose, parce que après 18 ans, enfin, ou 16 ans d'amis, enfin, je ne sais pas combien de temps on a mis pour faire le film, mais non, le film n'a finalement rien changé fondamentalement à notre amitié. Mais par contre, sur le plan personnel, ça m'a poussé tellement dans mes retranchements que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit déclic. Je me sens beaucoup plus libre et détendu par rapport à mon métier aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment lié à la fabrication de ce film.
Lui, il dit souvent, Alexandre Jolien, que la philosophie l'a aidé à vivre. Diriez-vous qu'il en est de même pour vous avec le cinéma? Que le cinéma vous a aidé, Bernard?
Oui, le cinéma m'aide, parce que je pense de plus en plus aujourd'hui que justement choisir quand on a la chance de pouvoir choisir, voilà, un projet, essayer d'aller vers des projets qui justement continuent nous ouvrir, de nous aider justement à accepter le monde et à essayer de le transformer aussi, à aller vers l'autre. Alors ça fait pas tout, hein, ça ne remplace pas une thérapie ou un chemin spirituel, mais ça inclut le chemin spirituel inclut tout de toute façon. Oui. Donc voilà, le cinéma m'apprend énormément.
Ouais. Quand on choisit, quand on écrit aussi, dans quelle mesure votre écriture en tant que scénariste, et là je parle pas de votre travail avec les inconnus, mais plutôt après, se nourrit de votre vécu, de quelque chose de personnel, d'intime?
Alors c'est comme ça que j'aime bien écrire. Je saurais pas écrire sur des personnes avec lesquelles j'ai pas partagé au moins quelque chose. Ça serait comme une écriture hors sol.
Moi. Alors, ça veut dire qu'écrire, c'est se dévoiler.
Alors pour moi, oui, mais je ne peux partir que de moi, que de mes petites, de tout ce qui m'habite, mes petites faiblesses, etc. Et à partir de là, j'essaie d'élargir. Mais évidemment, ça va toucher mes proches, ça va toucher les amis, ce que j'ai vécu. Et c'est là où je me sens bien dans l'écriture. C'est dans cet univers que je crée à partir de l'univers qui existe. De créer une bulle dans laquelle je me plais, mais qui prend plein d'échantillons de ce que je vis, je ne peux démarrer une écriture que comme ça.
Mais quand on se dévoile, il arrive que ça fasse du mal plutôt que du bien?
Je sais pas. Je sais pas si toute vérité est bonne à dire. Je sais pas si se dévoiler peut faire du mal. Pour moi, ça me fait plutôt du bien. Je pense qu'il faut se soumettre au regard de l'autre. C'est important pour avancer. Sinon, on s'enferme dans une carapace, dans une bulle, dans une prison, je sais pas. Mais il faut prendre ce risque du regard de l'autre.
C'est vrai qu'il y en a une dans cette émission qui ne prend aucun risque, Bernard. C'est évidemment la culture et son actualité néfaste. Que se passe-t-il donc aujourd'hui? Vendredi.
Tous les équipements qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge.
C'est la fin du Castex. Le Premier ministre a fixé hier le cap de la levée progressive des restrictions sanitaires en matière de culture, graduée mais progressive. L'allègement s'amorcera dès le 2 février avec les suppressions des jauges pour les spectacles assis, avant de se consolider le 16 février avec la reprise des concerts debout, la fin de l'interdiction de manger et boire dans les cinémas et surtout la réouverture des boîtes de nuit. Une condition pour en profiter, présenter un pass vaccinal quand on a plus de 16 ans. Rock and roll, l'immense chanteuse brésilienne Elsa Soares s'est éteinte hier à Rio de Janeiro. Elle avait 91 ans. Grâce à sa voix iconique, son aura internationale, elle avait été sacrée chanteuse brésilienne du millénaire par la BBC en 1999. Au terme d'une vie marquée par les drames, la violence, l'engagement, elle restera pour les Brésiliens l'incarnation de la résistance et du courage. Électrisante diva, à la crinière ébouriffante, elle avait signé plus d'une trentaine de disques en 60 ans de carrière. Dakar et la manière, le collectif français Courtrajmé, emmené par le cinéaste Ladjli, a ouvert cette semaine sa première école de cinéma africaine à Dakar, au Sénégal. Après les établissements de Montfermeil et de Marseille, l'école dakaroise propose deux cursus d'apprentissage, l'un en scénario, l'autre en réalisation, et s'apprête à accueillir une trentaine d'élèves. Une formation gratuite, accessible à tous, sans condition de diplôme ni d'âge. C'est une manière de soutenir les talents en herbe et surtout la création audiovisuelle d'Afrique de l'Ouest.
L'Hyper Weekend Festival, en direct de la Maison de la Radio et de la Musique sur France Inter.
Et enfin, c'est hyper beau, hyper bon, hyper chaud. C'est l'Hyper Weekend de Radio France. Dès ce soir et jusqu'à dimanche, la Maison Ronde réenchante notre quotidien et électrise nos esgourdes. Sous l'égide du formidable Didier Varro, la première édition de ce festival hivernal propose une soixantaine d'artistes en concert et déploie masterclass, hommages, expositions pop au programme, notamment Clara Luciani revisitera la pop en symphonie, Kid Ismaël dirigera une chorale house, Alex Baupin rendra hommage à Gainsbourg et Jean-Michel Jarre dévoilera Oxymore, une création totalement inédite. C'est chic, c'est chic, c'est chic. Et Bernard Campan, invité de Boomerang ce matin pour ce film presque co-réalisé par Alexandre Jolien au cinéma mercredi. Mais ce qui fait l'actualité, on va pas se mentir Bernard, hein, c'est aussi l'annonce.
Ne nous mentons pas, oui.
Bah, c'est l'annonce d'un nouveau film avec les inconnus. Ah. Bah, c'est-à-dire que Didier Bourdon qu'on recevait pourtant il y a trois semaines ne nous avait rien dit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est un marronnier, comme on appelle ça.
Oui, c'est ça.
Un petit peu. Hein, bah, y a eu plusieurs choses qui ont été dites. Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a un. Non, mais c'est vrai.
Choses ont été dites.
Oui, c'est-à-dire qu'on allait faire un film, un spectacle, même de la télé. Alors je me suis dit, oulala, il y a un truc qui va pas là. Et effectivement, Didier n'a pas dit ça. Non, il a reconnu qu'on avait un projet de film qui ne serait pas un film des inconnus, mais avec les inconnus.
Ça veut dire que vous n'en serez ni les scénaristes, ni les réalisateurs.
Absolument.
Alors à qui avez-vous confié la tâche d'orchestrer ces retrouvailles? Il faut nous le dire. Hein.
Ouais, mais là, non.
Quoi?
Non, ah non, je
même suis... pas un petit scoop
Non, mais non, parce que ça va se dévoiler, là, on va le dire. Mais
justement,
ça serait
profitez-en.
Mettre un peu... Non, non. Tant que c'est pas complètement abouti, je peux pas m'engager auprès de mes camarades.
Le problème, c'est que j'essaye depuis 8 ans de faire des scoops dans Boomerang et c'est vraiment pas ma spécialité.
Non, j'ai la langue
tout
de bois.
Tout ce qui est buzz, j'y arrive pas. Mais vous avez une langue de bois, on va essayer de la...
Ouais.
Oula, je suis parti dans une phrase, là, je sais pas ce qu'on peut en faire. Bon, d'accord. Pour autant, à aucun moment vous avez dit que ce film, il vaudrait mieux qu'il soit écrit et réalisé justement par les inconnus, parce que ça va changer quelque chose.
Non, non, mais c'est toujours dit avec les inconnus, ça serait bien un jour qu'un cinéaste, qu'un réalisateur vraiment, voilà, nous inclut dans son univers, nous fasse... Et on a toujours rêvé de ça. On avait un moment, on s'était tourné
Fabien
un peu
vers... Fabien Odoniente.
Bertrand.
Non, bah je vais chercher, hein, je vais essayer.
Excusez-moi, mais sinon, je pensais à Bertrand Blier, alors je pensais quand même.
Bertrand Blier, non.
Non, mais qui n'a pas, non, ça avait pas pu se faire à l'époque. Mais là, c'est un réalisateur et un auteur talentueux, jeune, ça va nous apporter beaucoup de fraîcheur, de sang neuf.
Vous pouvez pas nous lâcher ça, un indice, un micro.
Ah, mais non.
Même pas un indice.
Non, j'aurais peur d'en dire trop.
Viens, on joue à Pyramide. Mais qui se lâche, qui dit n'importe quoi. L'enthousiasme, que continue de susciter les inconnus, Bernard Campan, comment vous l'expliquez? Ça doit quand même vous intriguer. Quand même après tant d'années.
C'est curieux, oui, parce que ben, j'ai rien vu passer, hein, mais c'est souvent le cas, hein, quand on est la tête dans le guidon, on voit pas les, on peut pas pédaler et se regarder pédaler. Donc tout ça c'est venu après, avec les DVD, avec les internet, et donc du coup j'ai regardé moi aussi encore l'autre jour là, un petit extrait d'un sketch, et je me disais mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité, enfin il y a du travail quoi, vraiment ça bossait, hein.
Ouais,
on y
ouais.
Allait. Hein.
Moi ce que je trouve passionnant c'est de voir le tournant qu'a pris votre carrière. Après cette séparation, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez quand ça s'est terminé au début des années 2000? Comment vous étiez?
Alors c'était, oui, c'est ça, au début des années 2000. Ben, j'étais un petit peu déprimé. Moi, j'avais l'impression que, hors du groupe, je pouvais pas faire grand-chose. Le comique, en plus, me semblait interdit. Et encore même aujourd'hui, la comédie pure me semble m'appartient pas, en dehors du groupe des inconnus en tout cas. La comédie pure, je parle pas l'humour, ou, etc. Donc j'étais vraiment un peu déprimé, je me sentais capable de rien.
Mais vous aviez envie de continuer en fait.
Et je refusais certains projets que j'osais pas, j'avais peur de me dire oh, je vais être ridicule là-dedans. Donc quand Zabou m'a proposé Se souvenir des belles choses, je me souviens que je lui ai dit tout de suite... il me dit mais t'as envie de le faire, parce que je disais oui, il est super, c'est magnifique ton scénar. Je dis oui, mais je sais pas si j'en suis capable. Et c'est elle qui m'a dit non, mais ça c'est mon problème, je sais que tu en es capable. Donc est-ce que tu veux le faire? Je dis oui, je veux le faire. Donc j'ai toujours eu besoin que quelqu'un vienne me chercher dans mon trou finalement. Enfin, autrefois en tout cas, j'ai besoin de ça quoi.
Avant cette rencontre avec les inconnus, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous être frère, Bernard Campan?
Alors, si c'était être frère, dans le sens demi-frère, comme les trois frères, et les inconnus, ça voulait dire une certaine chose, être frère-ennemi, un peu. Mais aujourd'hui, être frère, en pensant au film Presque, dans lequel, justement, tout le monde nous dit à Alexandre et à moi, enfin, ou à Igor et à Louis, mais vous êtes frère, ou c'est votre frère. Bon, ça revêt une autre chose. Mais je pense au film Presque quand vous me dites vous êtes frère, ouais, je pense ça. Après, je pense pas vous êtes tous frères.
Mais vous savez, je trouve ça quand même émouvant parce que vous dites vraiment que malgré le succès des inconnus, vous avez le sentiment de pas vraiment avoir trouvé votre place à l'époque. Qu'est-ce que vous vouliez dire en fait par là?
Ben que je me suis réfugié derrière le talent des autres. C'était la sensation que j'avais, c'est-à-dire allez-y, prenez le devant, prenez la lumière. J'ai beaucoup de chance d'être avec vous. Enfin voilà, c'est ça, c'est dévalorisation, manque de confiance qui m'a toujours habité.
Et alors ce rôle dans Se souvenir des belles choses de Zabou Breitman avec Isabelle Carré, qu'est-ce que ça a changé en fait? Est-ce qu'il a pu changer le regard des autres et le regard que vous portez sur le comédien que vous êtes surtout?
Oui, c'est ça, c'est de voir que j'étais tout à fait crédible dans un film comme celui-ci. Moi, ça a démarré une carrière solo, ça m'a permis de démarrer une carrière solo. J'ai Le cœur des hommes est venu très vite, le film avec Bertrand Blier est venu très vite derrière. Donc moi, ça a changé ma carrière hein, de toute façon. Et puis voilà, c'est déjà pas mal.
Mais comment on fait pour donner confiance aux autres, Bernard Campan? Parce qu'aujourd'hui, en tant que réalisateur, vous devez faire ça avec vos acteurs, vous devez faire ça avec votre équipe, leur donner confiance, les mettre en confiance.
Oui, je mettrais plus facilement en confiance quelqu'un qui a conscience de son manque de confiance. Et je lui dirais déjà, ne lutte pas contre ça, quoi. Vraiment, c'est ce qu'il y a de pire, de perdre de l'énergie à lutter contre son manque de confiance. C'est arriver à voir les choses et à tranquillement, le plus sereinement possible, les dépasser. Je pourrais peut-être aider un comédien dans ce cas de figure. Mais un comédien qui n'a pas confiance en lui, mais qui compense avec un certain orgueil, etc., je ne saurais pas trop comment le...
Vous lui diriez que ça prend du temps, en fait?
Ça prend du temps, et mais ça peut être instantané, parce que c'est faire un saut dans le vide aussi. Allez, j'ai pas confiance, mais j'y vais. Comme disait un ami, n'attendez pas de résoudre le problème de la peur avant d'agir. Allez-y avec votre peur. On peut même quand on n'a pas confiance, on peut se jeter à l'eau.
On va reparler ensemble de confiance, d'interprétation, puis aussi de bonheur, parce que c'est absolument central dans ce film Presque. Juste après, les Turtles, Happy Together en 1967, ne serait-ce que parce que notre amie Rebecca Manzoni en a fait aujourd'hui la chanson du jour. Vous êtes sur France Inter avec Bernard Campan. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me.
so happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy together.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
C'est malgré sa discrétion, c'est vraiment le compagnon de route, quoi. C'est-à-dire, c'est celui qui sait programmer le GPS, qui fait le plein, qui sait manier le cric comme personne, carré d'épaule, l'air affable, parfois sceptique avec ses lèvres circonspectes et son crâne nu avec lui. La conduite est douce et fluide. Il maîtrise son t-shirt vert, son sweatshirt à capuche noire. Bernard Campan, invité de Boomerang pour Presque, ce film co-réalisé avec Alexandre Jolien en salle mercredi. On en parlait, un film dans lequel vous jouez le rôle d'un croque-mort, profession qui, à ma connaissance, a rarement été représenté au cinéma, mais qui a eu son heure de gloire avec la série Six Feet Under, oui, qui a raconté l'histoire d'une famille, hein, qui avait une entreprise de pompes funèbres. Qu'est-ce que vous avez eu le sentiment de rendre visible, au fond, à travers cette profession, Bernard?
J'ai une petite parenthèse, parce que Didier a tourné dans un film qui s'appelait Bouquet Final, où il jouait un directeur de pompes funèbres, mais c'était une comédie très réussie. Et alors qu'est-ce que je cherche à montrer
à travers cette profession?
C'était les premières conversations qu'on avait avec Alexandre quand on s'est appelé, c'était effectivement sur le non-jugement, sur le réel, sur le libre arbitre, sur la mort. C'est évident que la mort est quelque chose qui nous fascine l'un comme l'autre et qui nous sert un peu d'aiguillon pour avancer dans la vie. Le métier de croque-mort, c'est venu un peu comme ça, parce que aussi un ami d'Alexandre qui s'appelle Joachim était croque-mort et avait une humanité dans son travail, ça nous a bouleversé. Et voilà, on avait envie de ce personnage très humain, mais vide intérieurement, d'ailleurs mort intérieurement. Et il y avait la symbolique de la mort à travers ce métier nous plaisait beaucoup.
Et ouais. Puis ce qui est intéressant, Bernard Campan, c'est qu'il exerce ce personnage, la profession qu'exerçait son père avant lui. Il y a quand même, oui, une forme de déterminisme, il n'y échappe pas.
Ouais.
Et je me demande à quel déterminisme est-ce que vous avez échappé, vous?
Eh bien, alors ça, c'est intéressant, savoir... Ah non, moi, je suis plus... Je sais pas. Je suis plus... Je reprends le mot de Nietzsche, la mort fatigue, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce que je dois faire, c'est aimer ce qui m'arrive. J'aime ce qui m'arrive. J'essaie d'aimer mon destin, mais je ne sais pas quel est vraiment... Quel aurait pu être mon destin.
Que faisaient vos parents?
Prof, mais c'est vrai que...
Bah, l'éducation nationale, ça vous tentait pas?
Non, j'ai essayé, j'ai passé le concours, mais j'ai même pas pu finir d'écrire ce que... Non, j'avais pas le niveau, quoi, pour l'éducation nationale.
Mais quel genre d'élève est-ce que vous étiez?
J'ai été cancre, j'en ai souffert, hein, c'est encore aujourd'hui, c'est marqué au fer rouge. Donc, fils de prof, cancre, ah oui, ça m'a marqué, ouais. J'étais la honte, voilà.
cancre par ses mauvaises notes ou cancre par son attitude de...
Je comprenais pas. Je comprenais pas. C'est le latin, les maths, la géographie. Non, je comprenais pas grand-chose.
Ça veut dire que l'école, pour vous, ça a été un lieu de honte, un lieu d'humiliation?
Oui, oui. Jusqu'au début, c'était très sixième, ça allait, cinquième, mais bon, quatrième, j'ai redoublé. Et après, oui, ça a été un fardeau, jusqu'au bout. Oui.
C'est fou que 40 ans plus tard, la douleur, elle soit encore là.
Oui, mais ça, je pense que c'est... Voilà, on ne peut pas complètement guérir de ces blessures. Mais on peut en émerger, on peut les rendre plus dociles. Et voilà, c'est... Je me sens, oui, cancre, et en même temps, je me sens épanoui. Donc,
je le dis ou
les
pas.
Deux sont possibles.
Je le dis. Juste avant l'émission, vous m'avez dit j'ai un complexe, j'ai peur de pas être assez intelligent,
Oui, parce que vous dites, tiens, on va peut-être parler de la bien-pensance. J'ai dit, ça me fait peur ce mot, parce que je sais pas trop comment le cataloguer. Et oui, il y a tout de suite... pourvu que je sois à la hauteur, quoi. Ah oui, tout de suite. Mais ça finit par m'amuser, parce que je vois que les choses se passent bien, mais que les gens me regardent avec des grands yeux quand je dis ça. Je me rends bien compte que c'est une petite voix intérieure qui a plus sa place, mais qui continue à fonctionner.
C'est-à-dire que pour surmonter ces blessures originelles, le rire, ça a été justement une façon?
Le rire, c'est extraordinaire. C'est vrai que je reconnais faire rire une salle, ou faire rire quelqu'un autour d'une table, quelqu'un qui va faire rire tout le monde, c'est un pouvoir extraordinaire. Alors ça dépend quel rire. S'il raconte blague sur blague, c'est drôle. Mais quelqu'un qui va avoir l'humour de détendre une assemblée, c'est un sacré pouvoir, le rire.
C'est qui le réalisateur du prochain film des Inconnus?
Oui, absolument. Oui. Je suis bien d'accord avec vous, Augustin Trappenard.
Qu'est-ce que c'est pour vous, au fond, un comédien, Bernard Campan? Qu'est-ce que c'est? C'est étrange, alors, personnage.
Ouais, c'est vraiment étrange. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve comédien? Mais je pense que si la comédie est un art, c'est aussi, je pense que c'est l'art d'arriver à s'oublier à un moment, à part force de travail, de réflexion, de transpiration, arriver à trouver cet état de grâce que recherche certainement le peintre quand il est guidé par sa main, ou que recherche le sportif quand il est dans le deuxième souffle et que ce sont ses jambes qui le portent, c'est même plus lui qui court. Je pense que c'est ça qu'on cherche, cet état d'abandon. Ça, pour moi, c'est un des grands kiffs de la comédie, enfin du jeu.
Et alors pour vous, c'était pas au cinéma au départ, c'était vraiment le théâtre. Vous vouliez être Gérard Philippe?
Oh bah, j'ai trouvé beau, hein, j'ai trouvé magnifique.
Me lancez pas sur le sujet, Bernard.
Hein?
Me lancez pas sur le sujet, c'est une bombe, Gérard.
Ah, je l'aimais. Et d'ailleurs, je peux pas empêcher de penser là, en ce moment, je pense énormément à... Enfin, énormément, je pense beaucoup à Bacri. Je suis bouleversé par la disparition de cet homme-là.
C'est un anniversaire?
C'était hier.
Ça fait un an.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû repenser. Mais je ne le connaissais pas. J'ai rencontré qu'une fois, mais je suis particulièrement ému chaque fois que je le vois jouer, quoi.
Quand vous pensez à lui, vous pensez à quel film, à quelle séquence, à quel mot, Jean-Pierre Bacri?
Leur film, Jaoui Bacri, hein. Leur film essentiellement, je dirais.
Ah, vous l'appelez Jaoui, vous?
Jaoui Bacri, leur film à eux deux.
Vous l'appelez Agnès Jaoui?
Oui.
Ah oui, moi je pensais Jaoui, mais on peut le tenter.
Ah hein. Jaoui.
Non, on peut l'appeler Jaoui. Hein. Elle nous pardonnera, je pense.
J'espère.
La première fois que vous avez franchi le seuil d'un théâtre, c'était quand?
Ah ben tiens, très bonne question. Ben c'était, je devais avoir 12 ans et mon père, qui était professeur d'italien, avait la possibilité de m'emmener voir il Piccolo Teatro di Milano, qui était Giorgio Schreller, qui était un grand metteur en scène, et voir Goldoni, quoi, le Arlequin de Goldoni, Arlequin serviteur de Demetre, et donc qui est de la commedia dell'arte. Et donc j'ai vu ce personnage fascinant, ces personnages avec leurs masques, et je me souviens qu'on est allé en coulisses féliciter le comédien, et j'ai été déçu de voir que derrière ce masque il y avait presque étonné surtout de voir qu'il y avait un visage humain derrière ce masque et de la transpiration sous les bras, donc il y avait quelque chose de terriblement humain, alors que j'étais transporté dans un univers hors sol en regardant ce... Je pense que ça a commencé là, l'envie de faire du théâtre.
J'aime bien vous entendre parler d'acteur, Bernard Campan. Vous nous avez apporté un texte ce matin très court.
Ah oui.
C'est l'extrait d'une conférence de Louis Jouvet en 1951 prononcée à l'Université de Boston.
Oui, sur le jeu du comédien et la rencontre avec le public. en ce moment unique où les participants entraînés, dépossédés d'eux-mêmes, dessaisis de leur caractère et de leur choix, restitués à une sensibilité neuve et intelligente, souveraine, se fondent et se dissolvent peu à peu les uns dans les autres, à ce moment où ils perdent leur personnalité, où toute faculté consciente et raisonnante ne résiste plus à la chaleur de l'acte lui-même, à ce moment où, dit Arthur Rimbaud, « je est un autre que moi », par une magie singulière, tous ceux qui franchissent le seuil d'un théâtre subissent en eux-mêmes ce transport, cette modification où des possibilités nouvelles jaillissent et affleurent, les dotant d'une sensibilité et d'une intelligence neuve.
C'est magnifique. Ça vaut aussi pour vous, Bernard Campan, lorsqu'on entre dans une salle de cinéma, autant que quand on entre dans un théâtre.
J'aimerais bien que le théâtre, il y a une relation directe au cinéma, mais oui, il y a forcément une communion avec entre le public et le spectacle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant il y a les pop-corn qu'on va pouvoir bouffer encore au cinéma, donc ça va nous emmerder pour voir les films.
Vous êtes anti-pop-corn, vous ?
Anti-bruit, ouais. Surtout pendant les films. Non, je dis ça pour parce que on l'a dit tout à l'heure, je l'ai entendu. Mais bon, voilà, le théâtre, c'est une alchimie entre le, comme disait d'ailleurs Michel Bouquet, Pierre Arditi le rappelait l'autre jour, on ne joue pas pour le public, on joue avec le public.
Merci infiniment, Bernard Campan, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Presque, co-réalisé avec Alexandre Jolien, sort mercredi, que c'est un film lumineux sur l'amitié. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Géraud Humbert et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça. Bannouane en chanson, il est 9h40 sur France Inter. Sonia De Villers, l'instant M, ça va Sonia?